RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Argentine où le vent a tourné pour le monde agricole. Contrairement à son prédécesseur, le gouvernement du président Mauricio Macri, arrivé au pouvoir en décembre dernier, a clairement pris position en faveur du campo, c'est comme ça qu'on appelle le secteur agricole en Argentine. L'Argentine, c'est bien sûr le pays du soja, semé sur plus de 60% des terres cultivées, l'or vert qui rapporte tant et si facilement aux producteurs, mais aussi au gouvernement qui taxe les exportations de cet oléagineux et de ses dérivés. Mais l'Argentine, c'est aussi le pays des gauchos, les cow-boys argentins, et de l'élevage, un secteur qui a connu des années difficiles, mais qui montre des signes de reprise. Quel modèle agricole pour l'Argentine? C'est un grand reportage de Marine de la Moissonnière.
En ce vendredi matin, environ 7000 bovins attendent d'être vendus au plus offrant au marché aux bestiaux de l'Iniersa Buenos Aires. Des bovins qui sont pesés deux fois dans la journée. Du haut de son poste de contrôle, Marcos Delia surveille ce qui se passe.
Mon boulot, c'est de peser les vaches. Le gaucho les fait entrer là. Dans cet enclos, là où se trouve la balance. Je saisis ensuite sur l'ordinateur toutes les informations qui concernent le bétail, comme le nombre de bêtes, la race, le poids, le prix, le nom de l'acheteur. Et en fait, c'est pas très compliqué. Quand j'ai fini, ensuite, je sonne. Comme ça, le gaucho sait qu'il peut faire sortir les bêtes. Aujourd'hui, je n'ai pas eu grand-chose à faire. J'en ai pesé 80 et ça fait 3 ou 4 ans qu'on a de moins en moins de travail.
Une activité au ralenti, c'est aussi le constat que fait Orlando Allegré, qui travaille au marché de l'Iniers depuis 58 ans. On est loin de l'âge d'or de l'élevage argentin. En cause, la culture du soja, qui a connu un boom depuis l'introduction des OGM en Argentine en 1996. Peu à peu, les bovins ont dû céder la place aux céréales, bien plus rentables. Au cours des 20 dernières années, l'Argentine a perdu 10 millions de têtes de bétail. Orlando Allegré.
Au marché de l'Iniers, on recevait en moyenne 35 000 bêtes par jour dans les années 60-70. Parfois, c'était même plus. Aujourd'hui, il arrive qu'on n'atteigne même pas ce nombre en une semaine. C'est la culture du soja qui a fait reculer l'élevage. Sous le gouvernement précédent, on tuait des vaches encore en état de vêlée. On envoyait même à l'abattoir des génisses.
Le gouvernement de Cristina Kirchner, lui, privilégiait le soja.
Oui, parce que le soja, ça rapporte beaucoup, très vite. En un an, vous faites deux récoltes de soja, alors qu'élever une vache, ça prend un an et demi, deux ans. La différence est énorme. Et puis avoir un troupeau, l'élever, c'est risqué, c'est un investissement à long terme. Avec le soja, le pays a cédé au chant des sirènes. On est en train de se rendre compte que le soja, ce n'est pas une si bonne chose que cela. C'est une culture qui abîme les sols et qui provoque des cancers. Mais certains ont voulu s'en mettre plein les poches, au lieu de penser à l'avenir du pays.
Depuis l'arrivée au pouvoir de Mauricio Macri en décembre dernier, les choses commencent à changer. Dès le lendemain de son élection, le nouveau président a supprimé les taxes sur les exportations de viande. Depuis, l'élevage a de nouveau la cote auprès de certains. Luciano Rata est propriétaire d'une exploitation agricole à Lobos, à 100 km au sud-ouest de Buenos Aires.
Ce que vous voyez là, ce sont les terres les plus fertiles de mon exploitation. Jusqu'à présent, je cultivais 150 hectares de soja, de maïs, de blé et de tournesol. Mais il y a quelques mois, j'ai récupéré 20 hectares pour y mettre des vaches. Et comme vous pouvez le constater maintenant, ce sont des pâturages de très bonne qualité. Toutes les vaches devant vous, là, vont être inséminées en novembre prochain. Mon but, c'est d'agrandir mon troupeau.
Qu'est-ce qui est le plus rentable, l'agriculture ou l'élevage ?
En ce moment, à condition de faire attention, d'être productif et efficace, l'élevage rapporte autant que l'agriculture. Pour moi, il ne faut pas opposer les deux. Ce sont deux activités complémentaires très risquées, car dépendantes du climat. Le mieux, le plus sage à long terme, c'est de diversifier ses productions, de faire un peu de tout. Moi, j'ai décidé de miser un peu plus sur l'élevage en décembre dernier parce que le changement de gouvernement a créé des perspectives très encourageantes pour cette activité. Et puis parce qu'au fond de moi, je suis un éleveur, pas un agriculteur. D'autres font comme moi en ce moment. Mais pour que les effets de ce changement soient bien visible, il faudra attendre plusieurs années. Ce ne sera pas immédiat comme ça l'a été pour l'agriculture.
J'imagine que beaucoup d'infrastructures ont été détruites.
Oui, énormément. L'agriculture a chassé beaucoup de gens. Il n'y a plus eu d'investissement dans les clôtures, les bâtiments. Faire marche arrière aujourd'hui, c'est très difficile.
Qu'est-ce que vous avez dû faire dans ce champ ?
J'ai acheté des barbelés, des abreuvoirs. J'ai investi dans les puits aussi. Au total, j'ai dépensé environ $450 par hectare. Pendant un an, cette terre ne me rapportera rien. Ça va donc être difficile financièrement pour moi, et puis ça va repartir.
Luciano Ratta compte sur le soutien du gouvernement. Le nouveau président a été très clair. Contrairement à Cristina Kirchner, à qui il a succédé à la tête du pays, le campo n'est pas son ennemi. Mauricio Macri a d'ailleurs tenu à se rendre au Salon de l'agriculture en juillet dernier.
Buenos días a todos. Muchas gracias por...
C'était très émouvant. Cela faisait 15 ans qu'un président n'était pas venu.
Luis Miguel Echeverri, président de la Société Rurale Argentine.
Plusieurs organismes officiels sont également revenus, comme le ministère de l'Agro-Industrie, l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire, l'Institut National de Technologie Agricole, la Banque Centrale, certaines régions du pays. C'était un salon vraiment particulier.
Ça veut dire que la guerre entre le gouvernement et le monde agricole est finie ?
Oui, tout à fait. Le climat est totalement différent. Pour nous, les 12 années de gouvernement Kirchner ont été des années perdues. Cela a été le pire gouvernement de toute l'histoire de l'Argentine. Le bilan de ces 12 années est totalement négatif. Les Kirchner n'ont rien fait de bien. Ils ont brisé tout ce qu'ils ont touché. Ils prétendaient tout révolutionner, mais ils n'ont proposé aucun modèle efficace en échange. Et le comble, c'est la corruption qui sous-tendait leur action. Leur logique, c'était de voler pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, au ministère, il y a des gens compétents, travailleurs, qui maîtrisent certains sujets mieux que nous et qui nous demandent notre avis. Ce genre d'attitude crée un climat de confiance qui a des conséquences concrètes. Cette année, le monde agricole va investir davantage, environ $58 milliards. La majeure partie de cet argent ira à l'élevage. L'agriculture arrive en deuxième position. Notre objectif, c'est de produire de quoi nourrir 680 millions de personnes d'ici 6 ans, contre 400 millions aujourd'hui, et de créer 1 300 000 emplois. Cette année, la production devrait augmenter de 20%. Il y aura 800 000 hectares de blé en plus, 1 million d'hectares de maïs supplémentaires, 450 000 hectares de tournesol de plus. La superficie de soja devrait, elle, être stable ou en légère baisse, aux alentours de 20 millions d'hectares.
Et toute cette production, tout cela sera exporté ou bien vendu sur le marché argentin ?
Cela va dépendre de notre compétitivité, qu'on doit vraiment améliorer. On produit bien plus que ce dont on a besoin. Le problème, c'est que beaucoup de nos produits sont compétitifs sur leur lieu de production, mais ne le sont plus une fois arrivés sur les marchés internationaux. Ce qui augmente nos prix, c'est le transport. Par exemple, le fret routier entre Salta, dans l'ouest du pays, et le port de Rosario coûte deux fois plus cher que de faire Rosario-Rotterdam ou Rosario jusqu'à un port asiatique. Ce sont aussi les impôts, le prix de l'essence et l'absence d'accords de libre-échange. Certains de nos concurrents ne payent pas de droits de douane, alors que nous, on en paye entre 12 et 29%. C'est la faute du gouvernement précédent qui s'est isolé du reste du monde. Il faut maintenant retisser des liens de confiance. Dans certains marchés, il s'est écoulé tellement de temps que les gens ne nous connaissent plus. Rendre notre économie compétitive, c'est le grand défi à relever.
Le monde agricole est donc à nouveau en marche. Pas sûr pour autant que cela signifie la fin du règne du soja. La superficie agricole qu'il occupe ne devrait pas diminuer significativement. Car aujourd'hui, plus de la moitié de la viande consommée en Argentine est issue de l'élevage intensif, inspiré du modèle américain. Et la tendance est à la hausse. De plus en plus de bovins passent les derniers mois de leur vie à l'air libre, mais dans des feedlots, des parcs d'engraissement où ils sont nourris au grain. Juan Eiras est propriétaire d'un feedlot situé à Lobos. Il a vu son activité augmenter de 20% ces deux derniers mois. Visite guidée sous la pluie et donc en voiture.
En face de vous, ce sont les 4 enclos supplémentaires qu'on est en train de construire. On veut pouvoir accueillir 5000 bêtes par jour contre 3500 aujourd'hui. Allez, on va voir les vaches. Là, c'est l'enclos 12. Toutes les bêtes appartiennent à la même personne. Dans l'enclos suivant, le 11, ce sont les animaux d'un autre propriétaire. Chaque enclos mesure 3500 mètres carrés et accueille entre 150 et 200 bêtes. Chaque animal dispose donc de 20 mètres carrés, ce qui lui permet de se déplacer, de se reposer, tout en restant près de la mangeoire et de l'abreuvoir, parce que le but, c'est que l'alimentation soit intensive. Les bêtes peuvent manger quand elles le veulent, elles ont toujours de la nourriture à disposition.
Combien de kilos prennent-elles par jour ?
En moyenne, entre 1 et 1,1 kg. Les bêtes passent 3-4 mois ici, le temps d'avoir un poids homogène et standardisé. À partir du moment où je prends en charge un animal, je peux dire à 15 jours près, au pire un mois, quand il sera prêt pour l'abattoir. Une bête qui vit en liberté, si pour des raisons climatiques elle n'a pas grossi suffisamment au cours du printemps, elle devra alors passer au moins un hiver de plus dans les champs. Un animal nourri à l'herbe atteint son poids de vente à 2 ans et demi environ, alors que pour celui qui est passé par un feedlot, c'est 18 à 20 mois. Le producteur gagne donc un an. Le gain vient surtout du fait que pendant cette année, il peut utiliser ses terres pour des cultures plus rentables. La mangeoire, c'est la partie en ciment qui est là-bas. On va s'approcher pour que vous voyez mieux. C'est la rigole qui est là, vous voyez, là où est l'animal.
Et les bêtes, qu'est-ce qu'elles mangent ?
Comme dans la majeure partie des feedlots argentins, ici nous donnons à nos bêtes un mélange composé à 80% de maïs et de dérivés de maïs. On leur donne aussi des résidus de blé. Et enfin, on met de 10 à 18% de sorgho. Comme ça, ça leur fait un peu de fourrage qui remplace l'herbe que les animaux étaient habitués à manger quand ils vivaient libres dans les champs.
Donc les bêtes, elles ne mangent que des choses naturelles.
On a tellement de produits naturels en Argentine qu'on n'a pas besoin d'utiliser de produits chimiques. Dans le pays, on n'a jamais utilisé d'hormones de croissance. On a utilisé des anabolisants non hormonaux, mais ils ont été interdits en 2004. Depuis 1995, il est interdit de donner des farines animales aux bêtes. Ce qu'on utilise, en revanche, ce sont des antiparasitaires et des vaccins. Et puis, quand un animal est faible, on lui donne des vitamines, on lui fait des injections de fer et de cuivre.
Vous êtes souvent contrôlé par l'État ?
Oui, il y a des contrôles réguliers. L'Agence nationale de sécurité alimentaire a des vétérinaires dans chaque région qui inspectent les exploitations. On doit aussi envoyer des échantillons de ce qu'on donne à manger aux bêtes. Ils sont analysés pour vérifier qu'on n'utilise pas de substances interdites. Il y a également des contrôles dans les abattoirs.
S'il suscite l'adhésion de presque tous les éleveurs et les agriculteurs, ce modèle agricole intensif tourné vers l'exportation récolte en revanche des critiques au sein d'une partie de la société argentine. Certains le dénoncent, à l'image de la journaliste Soledad Baruti, auteure d'une enquête intitulée « La malbouffe ».
La vache est un ruminant. Elle n'est pas faite pour digérer le maïs. Il faut donc lui donner des médicaments, des antibiotiques, des antiacides, des calmants pour forcer son métabolisme. C'est aussi un animal qui se déplace et là on l'oblige à être immobile, à dormir sur ses bouses qui sont toxiques et qui polluent la terre et l'eau. Ça lui donne aussi des infections aux yeux, aux sabots, aux poumons. C'est un animal malade, stressé. Et c'est cette viande que l'on donne à manger aux consommateurs. Quant au soja, pourquoi en produit-on ? Parce que c'est un business rentable, c'est tout. On n'en mange quasiment pas en Argentine. On exporte plus de 90% de la production. La vie du pays est organisée autour du soja transgénique, qui occupe 60% des terres cultivées, avec les conséquences très graves que cela a sur la santé et l'environnement. Il est très difficile de remettre en cause ce système, car grâce aux feedlots, il y a plus de place pour les céréales. Et ces céréales, les vaches les mangent.
Vous êtes très pessimiste.
Ce qui me rassure, c'est le mouvement de contestation sociale qui se met en place dans certaines parties du pays. L'Argentine est l'un des seuls pays au monde où des citoyens rejettent Monsanto d'une manière aussi virulente. Le changement viendra de la population.
Quel modèle agricole pour l'Argentine ? Un grand reportage de Marine de la Moissonnière, réalisé par Mathieu Salabert.
Porque no te despiertas, contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arsani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va enfermando y a poco habitando. Te lo digo, te lo canto.
Bonjour Marine de la Moissonnière.
Bonjour Charlotte.
On l'a entendu dans votre reportage, l'élevage repart un peu en Argentine, ce qui doit réjouir les Argentins puisque la viande pour eux c'est essentiel.
Et oui, c'est la base de leur alimentation. Les Argentins sont les plus gros mangeurs de viande au monde, 60 kilos par personne et par an, rien que ça. L'asado, le barbecue argentin, c'est sacré en famille ou entre amis. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas de barbecue sur leur terrasse ou bien sur leur balcon ou dans leur jardin, eh bien, ce barbecue, il l'installe directement dans la rue, une fois à Buenos Aires, alors que j'y vivais. Je me souviens d'avoir vu à Recoleta, un quartier chic de la capitale. Ce serait l'équivalent du 16e arrondissement de Paris, pour ceux qui connaissent. Eh bien, ce jour-là, c'était en semaine, à l'heure du déjeuner. J'ai vu des ouvriers qui faisaient griller leur viande sous un camion. Ils avaient tout simplement installé leur barbecue à l'endroit où, à l'avant du camion, la cabine du conducteur s'attache à la arrière, là où il y a de la hauteur. Et personne n'y trouvait rien à redire. C'est vous dire l'importance de la viande pour les Argentins.
Donc l'élevage montre des signes de reprise. En revanche, le lait, lui, est en crise.
Oui, baisse des prix internationaux. Météo peu clémente avec énormément de pluie cette année. Une inflation galopante, 40% cette année, voilà, qui renchérit les coûts de production. Et enfin, la hausse du prix du maïs depuis la suppression des taxes sur les exportations de certaines matières premières agricoles décidées par le nouveau président Mauricio Macri. Voilà les éléments qui peuvent expliquer les difficultés que connaissent ce secteur. C'est un secteur qui a besoin de se restructurer, de se réorganiser parce que de nombreuses laiteries ne sont pas compétitives du tout. Certains producteurs demandent également qu'il y ait un prix de référence du lait en Argentine. Pour l'instant, il n'y en a pas, contrairement à la viande par exemple. Dans le reportage, on entendait au début un employé du marché aux bestiaux de Liniers qui raconte comment il saisit chaque jour les ventes sur son ordinateur. Eh bien, toutes ces données servent à élaborer l'indice Liniers, qui est en fait le prix de référence de la viande, un indice qui est disponible sur Internet. Eh bien ça n'existe donc pas pour ce qui est du lait. Et puis enfin, il y a le problème des intermédiaires entre ce que touche le producteur et puis le prix payé par le consommateur en supermarché. Il y a une énorme différence.
Mais il y a un autre secteur qui connaît aussi des difficultés, c'est celui des fruits et légumes.
Oui, et les producteurs excédés ont distribué gratuitement des fruits et des légumes à plusieurs reprises ces derniers temps sur la place de Mai à Buenos Aires devant la Casa Rosada, le palais présidentiel, et puis également la semaine dernière devant le forum d'affaires et d'investissement organisé par le gouvernement pour séduire les chefs d'entreprise du monde entier. Alors comme les producteurs de lait, l'inflation pèse lourd sur les coûts des producteurs de fruits et légumes, une hausse qui n'est pas compensée par les prix d'achat des industriels. Certains affirment même vendre à perte. En tout cas, pour vous donner un exemple, entre le prix payé au producteur et le prix que paye le consommateur, il y a parfois jusqu'à 800% de différence pour une simple poire.
Quel modèle agricole pour l'Argentine ? Votre grand reportage, Marine de la Moissonnière, à retrouver, à réécouter, bien sûr, sur RFI.fr.
l'épopée des musiques noires.